Bonjour ou rebonjour, vous êtes sur Graphite 94.9 FM et graphite.net en ligne. Aujourd'hui, je suis en studio avec des étudiants et étudiantes du cours WE1 de l'Université de Technologie de Compiègne qui s'appelle Questionner le Web, un cours que j'anime avec mon collègue Quentin Duchemin. Donc moi, je suis Stéphane Croza et je suis en studio avec Axel Vézy. Avec Axel Vézy, avec Quandmin Nguyen, avec Clément Daumont et avec Raphaël Ferraris. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Donc, l'objectif du cours, hein, WE1, on parle de divers sujets, mais on parle du web, on parle de l'Internet, on l'aborde sous les angles du droit d'auteur, de la culture libre, du capitalisme de surveillance, de la société algorithmique. On voit aussi, vous aurez le cours mercredi sur les alternatives libres, on parlera aussi de logiciels libres un petit peu dans cette émission, de redécentralisation. Et puis le tout dernier cours que l'on fera ensemble parlera aussi des enjeux socio-écologiques du numérique. Mais l'objectif, ça n'est pas que je vous fasse le cours de WE1. L'objectif, c'est que vous présentiez vos projets. Donc, on va commencer avec Clément et Raphaël, qui vont donc, je vais vous donner la parole dans quelques secondes, si vous voulez bien, nous parler de captologie sur YouTube. C'est bon pour vous ?
C'est tout bon.
Eh bien, c'est parti. Alors, on vous écoute.
Donc, bonjour à tous. Nous sommes Raphaël Ferraris
et Clément Daumont.
Tous deux étudiants en ingénierie mécanique à l'Université de technologie de Compiègne. Et donc, dans le cadre de WE1, nous allons vous présenter le fruit de nos études, de notre projet intitulé « La captologie sur YouTube ». Nous allons commencer par vous parler ensemble de YouTube et de son modèle socio-économique en nous appuyant sur l'ouvrage de Yvette Assilaméo-Kunz et Franck Rébillard, « La machine YouTube, contradiction d'une plateforme d'expression ». Ensuite, nous aborderons la notion de captologie, qui vient de l'anglais « Computer as Persuasive Technology », théorisée par Brian Geoffrey Fogg. Il y décrit la manière dont les technologies numériques sont conçues pour influencer nos attitudes et nos comportements. Et pour finir, nous présenterons comment YouTube use des techniques dans la seconde partie pour rendre sa plateforme plus captivante pour ses auteurs. Donc, dans notre partie, nous avons étudié un extrait du livre « La machine YouTube », écrit en 2021 par Franck et Yvette. Notre réflexion est aujourd'hui axée sur le chapitre 3 du livre et concerne l'activité socio-économique de YouTube. Donc, depuis le rachat de YouTube par Google en 2006, la plateforme est devenue un incontournable dans le domaine de la production de vidéos sur le web. Mais quelles sont les clés du succès encore grandissant d'une telle évolution ? Selon le livre, entre 2018 et 2020, les revenus publicitaires de YouTube ont doublé, passant de 11 milliards à 20 milliards de dollars. Une augmentation qui montre l'impact économique de cette plateforme. Quand on la compare au groupe TF1 et M6, qui à eux deux cumulent 2,5 milliards d'euros de revenus publicitaires en 2020, la différence est flagrante. YouTube génère, après conversion, environ 8 fois plus de revenus publicitaires que ses concurrents de la télévision. On parle de publicité ici car il est important de dire que YouTube est une plateforme possédant un modèle économique axé essentiellement sur la publicité. En effet, sur cette plateforme, c'est une plateforme multi-acteurs basée sur l'équilibre entre les fournisseurs de contenu, les consommateurs et les annonceurs. Les liens qu'entretiennent ces trois acteurs représenteraient un cercle vertueux duquel chacun tire son épingle. Par exemple, les créateurs de contenu sont intéressés par la large audience qu'offre YouTube, puis par la possibilité de gagner de l'argent via deux moyens. Le premier étant la monétisation des vidéos, qui est un système mis en place par YouTube qui permet aux créateurs d'obtenir une rémunération via l'intégration de petites pages de pub à certains moments de la vidéo. Et le deuxième moyen est le placement de produits. Le placement de produits, contrairement à la monétisation, est un accord direct entre le créateur de contenu et la marque. Et consiste à ce que le vidéaste réserve un moment de sa vidéo pour promouvoir un produit ou un service de la marque en échange d'une rémunération. On en déduit donc que l'intérêt des annonceurs est ici la visibilité qu'apporte leur apparition dans des contenus divers et variés. D'autre part, les internautes sont intéressés sur la plateforme car elle offre une immense quantité de contenu qui, à l'image des vidéastes, est très diversifié. C'est donc ce large éventail de choix qui permet à tout un chacun de trouver du contenu qui l'intéresse. On peut par ailleurs se demander pourquoi trouve-t-on toujours du contenu qui nous intéresse sur notre page d'accueil quand on ouvre YouTube. C'est ici que leur algorithme rentre en jeu. En effet, selon les auteurs, le véritable bénéfice de YouTube sont les données qu'ils récoltent des utilisateurs, car cela permet à leur algorithme d'accomplir sa mission. Ainsi, ils captent et gardent notre attention en nous proposant pubs et contenus que nous, plus que susceptibles de nous intéresser. Maintenant, vous allez écouter un extrait d'un reportage de Arte, disponible sur Arte gratuitement, intitulé « YouTube dopamine ». Et le passage que nous avons choisi concerne l'algorithme et la dopamine qu'il génère.
Apprentissage profond. On bourre un programme informatique avec tes données en lui demandant de trouver lui-même la théorie pour prédire ton comportement. Et ainsi, te faire une recommandation. YouTube va agir sur cet algorithme de recommandation pour te pousser à passer encore plus de temps devant ton écran. Car qu'est-ce que ça veut dire vraiment, aimer une vidéo? Est-ce que c'est ce qui te sera utile? Pas forcément, car pour YouTube, c'est un contenu qui suscite de l'engagement, donc que tu regardes longtemps et pour lequel tu postes des commentaires. Ainsi, l'algorithme est paramétré pour prédire le contenu pour lequel ta durée de visionnage est maximale.
Alors, dans la seconde partie, nous allons aborder la notion de captologie. La captologie est un domaine de recherche qui s'intéresse à la manière dont les technologies numériques sont conçues pour influencer nos attitudes et nos comportements. Le terme vient de l'anglais « computer as persuasive technology » et a été créé par le psychologue Brian Geoffrey Fogg en 1996. Selon M. Fogg, la captologie est avant tout un ensemble de techniques pouvant être utilisées pour encourager des comportements bénéfiques. On cite Fogg dans un extrait d'une interview nommée « La captologie, mais non, la tech ne veut pas nous manipuler », promis juré, de Mélanie Roussen dans le journal numérique L'ADN en 2019. Il y dira « Le design comportemental, une discipline sœur de la captologie, pourrait être utilisée par les hôpitaux pour soigner les diabétiques, les organismes financiers pour aider les gens à épargner et les ONG pour lutter contre le dérèglement climatique. » Fogg souligne aussi que si on prend l'exemple du dérèglement climatique, il faut s'adresser à des individus qui comprennent les enjeux, mais ne savent pas forcément comment passer à l'action. Alors, on leur envoie des messages simples en leur disant quoi faire et surtout pas en s'en contentant, de les informer de ce qui ne va pas. Ce champ de recherche s'apparente à celui du nudge, ou coup de pouce en français, une approche qui vise à orienter nos décisions sans les imposer. Par exemple, la SNCF qui affiche des messages motivants sur des escaliers pour inciter les gens à les emprunter. Ou encore, placer une fausse mouche dans un urinoir pour améliorer la précision. Dans tous ces cas, il s'agit de modifier le contexte pour rendre un comportement plus probable. Les travaux de Fogg ont inspiré des entreprises technologiques et des nouvelles figures comme Nir Eyal, un de ses anciens élèves, ont réalisé des best-sellers comme Hooked, expliquant comment créer des produits capables de générer des habitudes. Il décrit les habitudes comme « behaviors done with little or no conscious thoughts », c'est-à-dire des comportements réalisés avec peu ou pas de réflexion. Pour créer ces habitudes, Eyal propose un modèle en quatre étapes. D'abord, les signaux externes, comme des notifications, une icône rouge sur le cadran de l'application et des mails entraînant dans notre utilisation. Ensuite, la mise en place d'actions simples. Le j'aime, faire défiler des vidéos courtes, tout ce qui crée une interaction pour le consommateur. Il évoque aussi les récompenses variables. Cela désigne un système imprévisible qui mélange satisfaction comme un j'aime sur du contenu personnel, un match sur une application de rencontre ou du nouveau contenu comme une nouvelle vidéo sur YouTube. Et enfin, la frustration du rien, de ne pas avoir d'évolution sur notre application ou sur notre profil. Cette variabilité est cruciale. Skinner, en 1930, publie ses recherches nommées « On the conditions of elicitation of certain eating reflex » dans lequel, je cite, « Le conditionnement opérant montre qu'une récompense variable en réponse à un comportement appris augmente la fréquence du comportement. » Enfin, il y a l'engagement de l'utilisateur. Par exemple, le fait d'octroyer la possibilité de personnaliser son profil et créer du contenu augmente les chances que l'utilisateur revienne sur l'application. Répéter ce cycle d'étapes renforce l'habitude, au point que l'utilisateur peut revenir lui-même sans même signaux externes. Ça s'appelle le self-trigger. Les plateformes utilisent différentes stratégies pour renforcer les habitudes. Tout d'abord, l'inertie. avec notamment le scroll infini ou la lecture automatique qui permet de rester dans le flux sans effort. Ensuite, l'urgence qui joue sur la peur de manquer quelque chose, comme des alertes de temps limité, des badges d'activité quotidienne et des menaces de perte d'éléments virtuels. Pour finir, les affects. Les contenus très positifs ou très négatifs attirent plus de réactions, donc prolongent la présence de l'appli sur l'application. Attention, Eyal met en garde sur une confusion. Il souligne que créer des habitudes n'équivaut pas forcément à créer des addictions. Dans une interview nommée Nir Eyal on How to Beat Tech Addiction, We Need a New Skill Set de Arwa Madawi pour The Guardian, il dit « Further, he says, we need to stop using the word addicted when it comes to technology, because most of us aren't addicted at all, we're just guilty of overuse. » Il souligne que c'est bien différent d'une dépendance clinique et que c'est un souci de surutilisation. Pour clôturer cette partie, la captologie nous aide à comprendre comment les plateformes collectent de plus en plus de données. Une première phase de germination consiste à identifier ce qui motive l'utilisateur pour ajuster les stimuli. Puis vient la croissance, où les interactions prolongées permettent d'en apprendre plus sur ses préférences, opinions et valeurs. Pour appuyer notre propos, nous allons écouter un court extrait d'un discours nommé « Comment facilement adopter les meilleures habitudes de Nir Eyal », évidemment traduit en français et disponible sur YouTube gratuitement.
« Déteste quand les gens disent « Oh, faites juste de l'écriture une habitude. Vous devez juste en faire une habitude. C'est ridicule. Je n'ai jamais transformé l'écriture en une habitude. Pourtant, j'ai déjà écrit des milliers d'articles à ce jour, deux best-sellers, mais pour moi, écrire n'est jamais devenu une habitude. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire sans être vraiment conscient dans le moment. C'est difficile du début à la fin. Mais voilà le truc. Certaines choses sont censées être difficiles. Aujourd'hui, tout le monde pense que avoir une habitude signifie qu'on peut faire quelque chose sans ne plus ressentir le moindre niveau de résistance. Mais ce n'est pas ça une habitude. Quand les gens disent « Oh, je veux développer l'habitude de faire du sport ou d'écrire tous les jours. » Sauf que ce qu'ils disent vraiment, c'est « Comment puis-je faire cette chose difficile sans même ressentir la difficulté et faire en sorte que ce ne soit pas désagréable ?» Eh bien, c'est une attente irréaliste.
Du coup, je vous reprends juste après ce court extrait d'un discours de Nir Eyal. Et je vais maintenant parler du lien entre le modèle économique de YouTube et la captologie. Ce lien est fondamental. C'est notre temps d'attention qui alimente la plateforme et les créateurs. YouTube gagne son argent en vendant cette attention aux annonceurs. Et pour que ce flux ne s'arrête jamais, YouTube utilise des mécanismes de persuasion pour nous faire rester accrochés à notre écran. Son succès fulgurant prouve qu'ils ont su adopter une bonne stratégie afin de garder actifs les consommateurs et les créateurs. Comme l'ont expliqué Yvette Asilameou-Kunz et Franck Rébillard dans La Machine YouTube, le véritable enjeu pour la plateforme est de récolter et d'utiliser nos données. Ces informations nourrissent constamment le système de YouTube et cela lui permet de mieux comprendre ce qui nous motive à ouvrir l'application et y rester.
Au cœur de cette stratégie se trouve l'algorithme de recommandation, qui agit comme un déclencheur constant en anticipant nos désirs de contenu. Nous n'avons même plus besoin de chercher ce que nous voulons regarder. L'application nous le propose immédiatement. Il ne s'agit pas de nous montrer uniquement ce que nous aimons, mais de nous faire entrer dans une boucle de visionnage en exploitant le principe de récompense variable. Chaque vidéo est comme un petit pari. Nous ne savons jamais si la suivante sera absolument géniale ou juste passable. C'est cette incertitude, cette variation dans le plaisir ou la surprise qui nous rend curieux et nous pousse à cliquer encore et encore. Les travaux du psychologue Burrhus Friedrich Skinner sur le conditionnement en psychologie expérimentale en 1930 ont démontré que ce type de récompense imprévisible est le moyen le plus efficace d'augmenter la fréquence d'un comportement. Cette façon de créer une habitude est formalisée par Nir Eyal dans son best-seller Hooked en 2014. La création de l'habitude est accélérée par la lecture automatique de YouTube, qui permet de lire la prochaine vidéo sans interaction avec l'application. Cette fonction exploite notre tendance naturelle à la passivité. Rester sans rien faire nous amène directement à la vidéo suivante. Elle élimine l'effort mental et physique que nous devrions fournir pour nous arrêter. En rendant la poursuite du visionnage la chose la plus facile à faire, la lecture automatique s'aligne sur la philosophie du nudge ou coup de pouce en économie comportementale, expliquée par Taylor et Sustain dans leur ouvrage Nudge en 2008. Au final, ces fondations psychologiques sont ce qui permet à YouTube de transformer l'utilisateur en un consommateur assidu et prévisible, assurant ainsi le flux d'attention nécessaire pour ses clients et créateurs, justifiant l'équilibre financier de son modèle multi-acteurs.
Merci, merci Clément et Raphaël pour cette première présentation.
Merci à vous, merci de nous avoir écoutés.
Et puis, donc on va maintenant écouter la deuxième partie, la deuxième intervention d'Axel Vézy et Kwanmin Nguyen qui vont donc présenter leur travail, couper le cordon avec les États-Unis, mythe ou réalité technologique. Et on se retrouvera à la fin de cette présentation pour des questions à ces deux groupes. Mais maintenant, je passe la parole à Axel et Kwanmin.
Bonjour à tous. Donc du coup, nous, c'est Axel et Kwanmin. On est étudiants à l'UTC en premier semestre, donc on est tout nouveau. Et aujourd'hui, donc, on intervient dans le cadre de notre UVW1, où on produit des contenus pour questionner le web. Donc là, on va vous parler de la tech américaine et des logiciels libres. D'abord, on va commencer par vous présenter un extrait d'un article qui est publié en ligne. Ensuite, on expliquera ce qu'est un logiciel libre. Et pour finir, on fera le lien entre les deux, en évoquant le boycott de certains logiciels propriétaires américains.
Suite à la nouvelle investiture de Donald Trump à la présidence des États-Unis, l'augmentation des droits de douane sur le marché économique mondial commence à inquiéter. On entend alors de plus en plus de personnes suggérant de boycotter la tech américaine, un des domaines où les États-Unis sont presque omniprésents. L'article dont nous allons parler s'intitule « Boycotter la tech américaine ». C'est théoriquement possible, mais ça ne va pas être simple. Il a été rédigé par Alexandre Laurent, un journaliste tech et éco, et publié le 7 mars 2025 sur le média indépendant en ligne Next. Dans cet article, le journaliste détaille une situation où il tente de couper les ponts avec l'Amérique, notamment en arrêtant d'utiliser la tech américaine. La partie qui nous intéresse dans cet article concerne la configuration de son PC fixe. Alexandre Laurent souhaite évaluer à quel point son PC fixe contient des éléments américains. Après s'être demandé d'où provenait chaque composant, le journaliste indique que son setup inclut actuellement trois composants américains, son clavier, son processeur et sa carte graphique. Trouver un clavier américain n'est pas difficile à faire. La marque suisse Logitech propose de très bons périphériques, dont des claviers, qui fonctionnent aussi bien que des claviers américains. Cependant, concernant le CPU et la carte graphique, cela se complique. La plupart des CPU viennent de AMD ou de Intel, qui sont également des marques américaines, et les cartes graphiques de AMD ou Nvidia. D'autres marques non américaines existent, mais ne sont pas distribuées dans certains pays, telles que la marque Shaoxing en Chine, ou alors ne proposent pas des produits égalant les performances des géants américains en termes de vitesse de calcul ou en rentabilité énergétique. Une bonne alternative aux processeurs états-uniens distribués en France est de se tourner vers une puce ARM, un type de processeur qui consomme moins d'énergie, mais est beaucoup moins performant qu'un processeur classique. C'est le genre de puce présente dans un smartphone ou une tablette. Ces processeurs ARM existent dans des marques non américaines, usinées en Europe. Cela conviendrait donc aux besoins d'Alexandre Laurent. Il est alors possible de trouver une alternative, mais pas à performance égale. Cela pose quelques problèmes, car un ordinateur moins performant mettra plus de temps, voire ne pourra pas faire tourner certains logiciels trop gourmands en performance, tels que les logiciels de modélisation ou plus simplement encore des jeux vidéo. Si on souhaite jouer à un jeu qui pèse plutôt lourd sur le processeur comme Valorant, le jeu devient vite saccadé, car le processeur n'a pas le temps de calculer les différents éléments du jeu. Par contre, si on en fait un simple usage bureautique où les tâches à traiter sont assez simples, ça reste quand même suffisant. Il paraît donc compliqué de trouver une véritable alternative non américaine équivalente au niveau des performances à un ordinateur de bureau. En effet, même si pour une personne normale, il n'y a pas besoin de performances tellement hautes qu'elle ne serait pas disponible ailleurs que dans les composants des USA, les tendances et les besoins changent. Les tâches de tous les jours deviennent de plus en plus complexes et coûteuses, ce qui rend irrationnel de négliger une recherche active d'alternatives, au moins pour prévenir un éventuel retard en termes de requis.
Paris and my fellow citizens, the golden age of America begins right now. From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world. We will be the envy of every nation, and we will not allow ourselves to be taken advantage of any longer. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first.
Je reprends après cet extrait audio. Donc celui que vous venez d'entendre, il correspond au début du discours d'investiture de Donald Trump, qui a été prononcé le 20 janvier 2025, lorsqu'il devient président des États-Unis. Malgré que c'était en anglais, j'espère que vous avez compris la plupart des choses, mais pour vous résumer, il affirme que l'Amérique entre dans un nouvel âge d'or et qu'il fera passer le pays avant tout. Et donc cela se traduit par des politiques plus protectionnistes, comme l'augmentation de certaines taxes. C'est dans ce contexte qu'est née l'idée de boycotter les produits et les logiciels américains. Donc maintenant, on va vous présenter le concept de logiciel libre.
Un logiciel libre est libre si une licence autorise son utilisation, son étude, sa modification et sa redistribution. Il n'y a donc pas besoin de demander la permission au créateur du logiciel pour pouvoir l'utiliser ou même le copier pour que quelqu'un d'autre l'utilise. Une telle licence associée à un logiciel nous garantit le droit d'utiliser le logiciel et également d'accéder à son code source, qui correspond au code d'un logiciel, mais sous sa forme lisible, telle qu'a été écrite par des humains. Et dans la plupart des cas, de pouvoir modifier ce code source. Un exemple de logiciel libre sont les logiciels de la suite LibreOffice, permettant le travail bureautique, tel que le traitement de texte ou l'utilisation de feuilles de calcul, qui est une alternative à Microsoft 365, une suite logicielle bureautique propriétaire offrant plusieurs services tels que Word ou Excel. Microsoft met à disposition ces données à condition de payer une licence et interdit la lecture et modification du code de ces produits, encore moins sa redistribution. Microsoft 365 est donc une suite de logiciels propriétaires et LibreOffice est un équivalent libre. D'ailleurs, la plupart des logiciels propriétaires peuvent être de nos jours remplacés par une alternative libre, comme par exemple le navigateur web propriétaire Google Chrome, par l'alternative libre Firefox. La philosophie même du logiciel libre est basée sur la coopération et le partage, afin de garantir la liberté de chacun. Ça offre la possibilité aux utilisateurs de proposer des modifications ou ajouts au code source, afin d'offrir d'autres possibilités. Ces modifications peuvent être postées sur le web afin que chacun y ait accès, sur un forum ou alors sur un site dédié, comme par exemple le logiciel Blender, qui sert à modéliser et animer des objets en 3D, proposant un site pour que les utilisateurs puissent poster leurs add-ons ou plugins, c'est-à-dire des compléments qui peuvent être ajoutés au logiciel pour le compléter avec de nouvelles fonctionnalités ou autres moyens de calcul. Bien que certains logiciels propriétaires offrent aussi la possibilité d'ajouter des plugins, en créant un soi-même est bien plus simple avec un logiciel libre grâce à l'ouverture de son code. Par exemple, le jeu vidéo RimWorld propose à tous ses utilisateurs l'accès au code source et à sa modification afin de rajouter des mods qui sont des modifications du jeu dans le but d'y ajouter des éléments. Cela peut aller d'un lampadaire en plus ou à toute une zone ou même une fonctionnalité toute nouvelle. Dans un autre jeu vidéo, comme Minecraft, où l'accès au code source n'est pas possible, il est plus difficile de créer des mods viables. De même, dans RimWorld, alors avant de publier une mise à jour, les créateurs envoient au modeur le nouveau code source du jeu, celui qui sera publié dans la nouvelle version du jeu, afin qu'ils puissent tester si leur mode fonctionne toujours et éventuellement les modifier en conséquence. Comme Minecraft ne fait pas cela, il n'est donc pas garanti que les mods fonctionnent toujours dans la version mise à jour du jeu.
Je peux présenter le logiciel libre en trois mots. Liberté, égalité, fraternité. Liberté parce que le logiciel libre respecte la liberté de ses utilisateurs. Égalité parce que tous les utilisateurs possèdent les mêmes droits et à travers du logiciel libre, personne n'a du pouvoir sur personne. Et fraternité, parce que nous encourageons la coopération entre les utilisateurs.
Ce deuxième extrait provient d'une conférence donnée le 22 mars 2013 par Richard Stallman, développeur informatique et figure majeure du mouvement du logiciel libre. Selon nous, il résume parfaitement l'esprit et les principes du logiciel libre. C'est pour cela que nous avons choisi de vous le faire écouter. Passons maintenant à la dernière partie de notre présentation, le boycott des logiciels propriétaires américains.
Une piste alternative ou complémentaire pour boycotter la tech américaine serait de boycotter les logiciels propriétaires états-uniens. Car après tout, la plupart des logiciels qu'on utilise au quotidien sont des logiciels propriétaires américains. Comme Google Chrome, le système d'exploitation Windows, Microsoft Office, Adobe Flash Player, Google Maps et j'en passe. Utiliser une alternative libre réduirait alors notre contribution au marché états-unien. Par exemple, pour naviguer sur Internet, il est possible d'utiliser Firefox ou même Tor Browser, qui sont des navigateurs libres. Pour les recherches en ligne, DuckDuckGo, qui respecte davantage la confidentialité, constitue déjà un premier pas. Et pour la création graphique, des logiciels comme GIMP ou Inkscape remplacent Photoshop ou Illustrator. Pour communiquer ou collaborer, le libre propose également de nombreuses solutions, Plutôt que des plateformes commerciales, on peut discuter via Mattermost, un outil de messagerie libre. Pour écrire à plusieurs, en temps réel, il existe des éditeurs collaboratifs comme Etherpad ou EdgeDoc, qui offrent une bonne alternative à Google Doc. Il est aussi possible de s'appuyer sur les infrastructures du collectif chaton.org, un réseau d'hébergeurs proposant des services libres et éthiques, comme le partage de fichiers, les visioconférences, les pads collaboratifs ou encore de l'hébergement de mails. Dans le même esprit, on peut choisir des solutions de courriel respectueux de la vie privée, comme ProtonMail, un service de messagerie électronique suisse. Et pour les réseaux sociaux, il existe le Fediverse, un ensemble de plateformes libres et décentralisées qui permettent de communiquer autrement, sans dépendre des grandes entreprises américaines. Tous ces exemples d'alternatives libres sont issus du cours de Stéphane Croza sur librecours.net sous licence CC BY-SA, ainsi que des sites dégooglissons internet, chaton.org et Picassoft, qui recensent et proposent des outils libres et respectueux de la vie privée. Adopter ces alternatives ne nécessite pas un changement radical du jour au lendemain. Il s'agit de transformer étape par étape la manière dont on utilise le numérique, en remplaçant progressivement des services propriétaires américains par leur équivalent libre. Cela permet ainsi de renforcer notre confidentialité et notre capacité à choisir les outils qui respectent le mieux nos valeurs. On espère avoir été clair et vous avoir appris certaines choses sur les logiciels libres ou la position de la tech états-unienne dans le monde. Merci de nous avoir écoutés, c'était Axel et Quangmin sous licence CC BY-SA. C'est-à-dire que vous pouvez copier le contenu, le diffuser, le modifier, à condition de diffuser vos modifications sous la même licence et de nous citer. Merci.
On est de retour. À présent, on est sur le deuxième groupe hein, de deuxième émission de WE1 ce matin. On a entendu donc Clément et Raphaël nous parler de captologie et de YouTube. On a entendu Axel et Quanmin nous parler de couper le cordon avec les États-Unis d'un point de vue matériel et logiciel, d'un point de vue technologique. Et donc, eh bien, on a quelques questions associées à ces deux interventions. Donc, je vais commencer par poser une question à Axel et Quanmin. Donc vous nous avez présenté des alternatives libres aux grands logiciels de la tech américaine, hein, alternatives à Google, alternatives à Microsoft Windows, etc., etc. Vous nous avez parlé aussi la problématique des alternatives aux médias sociaux, aux réseaux sociaux. Donc, du coup, la question qu'on peut se poser, c'est si jamais on devait abandonner ces grands logiciels demain. Première question, est-ce que ça aurait pas quel impact ça aurait en fait sur nos activités, c'est-à-dire est-ce qu'on pourrait quand même continuer d'avoir les mêmes types d'usages qu'on a aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'on le fait pas aussi facilement que ça? Et puis une question liée, posée également par vos collègues, hein, est-ce que en termes de qualité, est-ce que les logiciels libres c'est supérieur, c'est inférieur aux logiciels propriétaires ou est-ce que c'est pareil? Voilà, je vous pose cette question un peu globale et puis je vous laisse nous donner quelques éléments autour de ça si vous voulez bien. À vous la main.
Alors, je vais reprendre la question sur les réseaux sociaux en commençant par introduire le fait que la plupart des raisons pour lesquelles nous sommes sur les réseaux sociaux et justement parce que nos amis, nos proches, ils sont déjà dessus. Par conséquent, si on se met à chercher un réseau social libre, il y aura d'abord la problématique que les personnes avec qui on veut interagir sur les réseaux sociaux ne seront pas forcément dessus, ce qui rend déjà l'utilisation de ce dernier beaucoup moins attractif. Ensuite, les réseaux sociaux proposent également un algorithme qui sera propre à chacun. Certains avis sur Internet disent que TikTok est beaucoup plus addictif que Instagram. C'est un exemple de à quel point les différences entre les algorithmes, entre les réseaux sociaux, peuvent influencer sur
nos habitudes d'usage en quelque sorte. Quoi. C'est ça. Hein.
C'est ça, oui. Et donc, par conséquent, la promotion positive ou négative d'un certain réseau social. Et donc, la question qui demande si se désocialiser des réseaux sociaux aurait un impact sur notre vie sociale, évidemment qu'il n'y en aurait rien. Parce qu'il faudrait alors changer les habitudes de soi, mais également de nos proches, les convaincre de pouvoir changer, de découvrir quelque chose de nouveau, et pour, au final, quelque chose qui n'aurait pas les mêmes aspects positifs ou négatifs sur les anciens réseaux sociaux que ces derniers utilisaient déjà.
Ok, merci. Axel, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur les logiciels libres en général ou est-ce que ça, c'est un peu la même...
Ouais, j'ai rajouté quelque chose, notamment sur plutôt la deuxième question pour la qualité du contenu libre. Déjà, il faut savoir que quand on achète un ordinateur, la plupart du temps, par défaut, c'est des logiciels propriétaires, la plupart du temps américains, qui sont installés sur l'ordinateur. Et ça engendre quelque chose de logique qui est que si on commence à utiliser ce logiciel-là, on va prendre l'habitude de l'utiliser parce qu'il a par défaut, c'est plus simple pour nous. Et donc si après on veut passer sur un logiciel qui est libre, ça peut être plus compliqué pour nous, on peut ne pas vouloir le faire parce que il faut se réadapter à autre chose, on n'a pas l'habitude de le faire. Donc la qualité dans ces conditions-là forcément sera moins bonne ou en tout cas on aura moins envie de le faire. Après niveau qualité propre, je dirais que la qualité est souvent équivalente, malgré le fait que les logiciels propriétaires ont beaucoup plus de budget. Mais on peut faire globalement la même chose sur les alternatives libres que sur les alternatives, enfin que sur les logiciels propriétaires.
Ouais, tout à fait. Hein. Au niveau des systèmes d'exploitation, on peut considérer que Linux, sous plein d'aspects, a des propriétés techniques supérieures à celles de Microsoft Windows. Il est utilisé dans de nombreux contextes pour ça. À l'inverse, on prenait l'exemple tout à l'heure au niveau des logiciels de dessin. Dans certains contextes, il existe des équivalences. Et puis dans d'autres contextes particuliers, peut-être tel ou tel logiciel spécialisé ou professionnel propriétaire fonctionnera un peu mieux. Donc on peut dire que ça dépend un petit peu. Mais en quelque sorte, tu l'as bien souligné, hein, la première problématique. informatique, c'est déjà les habitudes qu'on prend. Tu l'as dit, les systèmes sont préinstallés avec Windows. On pourrait aussi se demander si c'est une bonne idée, par exemple, pour les écoles de faire découvrir les logiciels propriétaires aux enfants ou aux étudiants comme première interaction avec l'informatique dans leur vie. Peut-être que si on le faisait différemment, on aurait d'autres résultats. Eh ben, merci à tous les deux de ce complément. À présent, je vais passer la main à Raphaël et Clément, donc, pour cette question, bien, ma foi, assez précise de vos collègues, là, qui vous demandent de revenir sur le hook model de Nireyal. Est-ce que, voilà, vous pouvez revenir un petit peu sur ce concept qu'ils ont particulièrement eu envie de voir développer un petit peu?
Oui, bien sûr. Alors, le hook model consiste à créer une habitude chez l'utilisateur. Pour cela, Nireyal mentionne 4 étapes. La première sont les signaux externes. Qu'est-ce qui va amener l'utilisateur ou utilisatrice à utiliser ce produit? La seconde est les actions. Quelles sont les actions les plus simples à réaliser dans l'espoir d'une récompense? La troisième est les récompenses variables. Comment équilibrer satisfaction et frustration imprévisibles? Et enfin, l'engagement. Comment donner envie à l'utilisateur ou utilisatrice de s'engager au-delà de la récompense? C'est la phase où il est le plus réceptif. La répétition est importante. Plus les utilisateurs ou utilisatrices passent par ces étapes, plus ils auront des chances de s'engager spontanément. Donc le self-trigger que j'ai abordé rapidement tout à l'heure. Maintenant, Raphaël va vous donner un exemple plus concret afin d'appuyer ces 4 étapes.
En effet, alors, je vais vous présenter un exemple très concret du modèle de hook. On peut prendre l'exemple de l'application Pinterest. En effet, lorsque l'utilisateur ouvre l'application, il est rappelé par une notification de Facebook et de ses souvenirs passés. Ceci est le signal externe. Cela incite alors l'utilisateur à ouvrir l'application. Et donc, vint le moment de l'action. L'action consiste à naviguer dans les images et la récompense est variable. La récompense variable est offerte par les images captivantes qui apparaissent. En utilisant ce modèle, Pinterest a réussi à créer une habitude d'utilisation qui continue sans effort pour l'utilisateur. On souligne le sans effort car cela représente un engagement très tranquille pour les utilisateurs. Voilà, c'est notre réponse à cette question.
Eh bien, merci, donc, avec un engagement tranquille pour les utilisateurs. Eh bien, écoutez, je vais vous remercier tous les quatre pour vos contributions, pour l'animation de cette seconde émission de la matinée. On avait entendu, hein, pour rappel avant vous, Fanny Zoé, Mayan et Timothée nous parlaient également de publicité ciblée, de surveillance de masse. Donc là, avec Clément, Raphaël, Axel et Quandmin, on a parlé captologie, YouTube, et puis problématique de remplacement des technologies américaines par des technologies libres. On se retrouvera la semaine prochaine également le lundi matin pour de nouvelles thématiques autour du cours WE1, donc questionner le web. Et puis cet après-midi, eh bien, je recevrai sur le même format à peu près des étudiants du cours IS3, low-techisation et numérique. Les éléments du cours de WE1, vous pouvez les retrouver sur librecours.net. D'ailleurs, je crois que la dernière contribution de Raphaël et Clément était basée sur le cours de Quentin Duchemin sous licence CC BY-SA que vous pouvez retrouver donc à cette adresse librecours.net. Et puis d'ici quelques jours, très probablement, eh bien, on pourra retrouver sur un média social alternatif libre et décentralisé PeerTube, donc à l'adresse aperi.tube, eh bien, des enregistrements de ces émissions. Bien, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous les quatre et à plus tard. Au revoir.
Merci beaucoup. Bonne journée à vous.
Bonne journée.